Dans la famille des musiques qui passent inaperçues, celle du karaoké est peut-être la plus discrète. Pourtant, c'est pas l'adjectif que j'aurais choisi pour décrire ce jeu qui s'est imposé partout dans le monde depuis 60 ans, ni pour celui qui l'a inventé. Salut tout le monde, bienvenue pour ce 11e service de boissons chaudes et tartines fraîches, la formule hebdomadaire avec une chronique et quelques recommandations autour de la musique. J'ai vu passer sur plusieurs sites la semaine dernière l'annonce de la mort du créateur du karaoké, un dénommé Shigeshi Negishi. J'aurais pas pensé qu'il était encore vivant, et surtout qu'on aurait retrouvé sa trace. En fait, l'info est remontée par l'intermédiaire du journaliste et auteur Matt Halt, qui avait écrit un livre sur la pop culture au Japon, et rencontré Negishi, qui lui a raconté le contexte de son invention. En 1967, Negishi était entrepreneur à Tokyo et commençait ses journées en écoutant une émission de radio, Pop Song Without Lyrics, donc chanson pop sans paroles. Il chante donc tous les matins pour se détendre et se motiver, et un jour il passe devant les locaux de sa société d'assemblage électronique, qui fabrique notamment des lecteurs de cassettes à 8 pistes. Alors qu'un ingénieur se moquait gentiment de son chant, Negishi lui aurait demandé si on pouvait raccorder un micro à un lecteur cassette pour s'entendre chanter par-dessus la musique de Pop Songs Without Lyrics. L'ingénieur lui a dit oui, et lui a rapporté un prototype 3 jours après. Un micro, un haut-parleur et un magnétophone réunis dans un seul objet, enfermés dans un cube qu'il va baptiser le Sparko Box. Et cette grosse boîte, avec son style chromé et plastique, et ses lumières frontales qui réagissent au rythme de la musique, bah, il va vouloir la vendre. Il a testé le concept sur ses proches et vu à quel point ça peut plaire au public. Sauf que Negishi ne connaît pas ce secteur, et il lui faut déjà trouver des pistes instrumentales, comme à la radio. Un ami lui dit que ce qu'il recherche, ce sont des pistes karaoké. Le mot est alors inconnu en dehors de l'industrie musicale. On l'utilise pour décrire les pistes préenregistrées qu'on utilise en fond, quand par exemple un ou une artiste va chanter en extérieur et qu'on peut pas installer tout un orchestre. Et c'est cette idée d'un accompagnement vide qui résume le terme karaoké. Bref, je vais pas vous faire toute la biographie, mais au final Negishi et son distributeur vont renoncer. Parce qu'il y a pas mal d'obstacles. Si le concept peut vite plaire, il a aussi des ennemis. Les musiciens itinérants qui passent de bar en bar et se plaignent auprès des proprios que cette machine leur fait de la concurrence et pousse les tenanciers à faire marche arrière. Et puis il faudrait breveter cet objet, et ça coûte beaucoup d'argent et de temps. Le concept est inédit, il a un beau potentiel, mais est-ce qu'on arrive pas un peu trop tôt? Après tout, il n'y a pas de concurrence. Bon, en fait, si Negishi est le premier inventeur du karaoké, il va y avoir d'autres créations similaires qui vont se développer à l'aube des années 70. Notamment, en 1971, Yasuke Inoue, qui est un musicien dans la ville de Kobe, va trouver une astuce pour compenser tous les concerts qu'il n'a pas le temps de faire. En fait, il enregistre l'instrumental de ses chansons, dans des versions plus faciles à chanter, et les vend à ses clients. Et comme ça marche, il ajoute une machine à pièces avec un minuteur, et les gens mettent la monnaie pour pouvoir s'amuser. Et c'est toujours pas lui l'inventeur officiel du karaoké, puisqu'en 1975, Roberto Del Rosario a fait sa propre version et déposé le brevet, et lancé une distribution qui va vite dépasser l'Asie orientale. Et on peut dire que le karaoké s'est plutôt bien exporté depuis. Bon, si je m'arrête là, je ne ferai que copier-coller tous les articles qui ont fait référence au livre de Matt Halt sur les origines du karaoké. Et comme je veux pas vous donner juste du réchauffé, je me suis posé une question. Qui fait la musique des karaokés? Je me suis aussi demandé s'il y avait des chansons originales qui sont nées du karaoké, et rapidement j'ai compris que c'était un peu couillon comme question. On fait du karaoké sur des chansons qui existent et qu'on connaît, c'est le but du jeu. On crée pas de musique originale pour ça. Donc pour revenir à ma première interrogation, qui fait la musique des karaokés? Eh ben j'ai constaté que c'est un secteur très dilaté. Déjà parce qu'on a deux contextes, les karaoké box, les machines qu'on utilise dans des bars ou des restaurants, avec souvent une salle privée où on peut chanter sans gêne. Et puis le karaoké qu'on peut faire chez soi, juste en trouvant les versions adaptées sur internet, avec ou sans micro, avec ou sans Notre-Dame de Paris, et avec ou sans les flics qui débarquent à 1h30. Bref, on a des boîtes qui font ça depuis plus de 30 ans, comme Sunflight ou Soundchoice, et beaucoup de petits business en ligne qui se développent pour faire sa propre piste de karaoké, en retirant la piste de chant avec un super outil de montage. Donc vous avez soit une création synthétique qui sert juste à imiter la chanson, soit une version tronquée de l'enregistrement original. En fait, ça dépend si ça vous dérange quand vous hurlez du Bonnie Tyler. En fait, le karaoké a dû s'adapter aux évolutions technologiques, de la cassette au CD puis au téléchargement en ligne. Et ça concerne aussi le support visuel, à partir du disque on peut avoir les paroles qui défilent avec le son. Et je pense que ces changements réguliers de médias et la facilité grandissante pour diffuser de la musique ont rendu le marché de plus en plus compliqué. Et j'ai jeté un œil à la législation autour du karaoké et des droits d'usage, ça a l'air très précis. Comme j'ai pu le lire sur le site de référence Karaoké Shack,
la plupart des labels indépendants de karaoké n'en produisent plus. Ils ont soit fait faillite ou ont arrêté la production pour d'autres raisons. On peut toujours acheter leur disque, par exemple sur eBay.
Et j'en suis arrivé à ce constat un peu triste, bah, la musique de karaoké n'a pas vraiment de valeur. Ce n'est pas une œuvre, c'est pas une reprise, c'est juste un outil pratique, une toile de fond. Il n'y a pas d'artiste derrière, juste des faiseurs. D'ailleurs, Apple Music a récemment fait appel à une intelligence artificielle pour fabriquer des pistes de karaoké. Alors l'attachement à l'objet est très limité. Si on cherche à acheter une compile karaoké sur CD, c'est vraiment parce qu'on a un souvenir avec. Sinon, on va juste prendre la version récente, la plus pratique, sur Internet. Et comme ça devient de plus en plus abordable de faire son propre karaoké, avec plus ou moins de qualité, mais c'est faisable, Je me demande comment cette pratique va évoluer, dans les lieux qui sont faits pour ça et où on paye pour un moment convivial, et chez soi où tout est accessible gratos. Et donc pour finir, j'ai une pensée pour tous ces disques gravés qui ont rejoint les CD d'installation AOL Wanadu au cimetière des reliques inutiles. Le karaoké, ça vous parle? Plutôt en bar ou chez soi? Vous écoutez des pistes de karaoké pour le plaisir? Venez en parler avec moi sur Instagram ou sur notre serveur Discord. Et maintenant, place au reco de la semaine. Pour commencer, le bon copain Werner MP3 a encore sorti une vidéo fort instructive, cette fois sur l'AMUSI, cette anomalie qui fait qu'on est incapable de reconnaître de la musique. Et apparemment, ça concerne pas mal de gens. Alors à quoi ça ressemble, est-ce qu'on peut le soigner et pourquoi? Eh ben vous apprendrez ça en quelques minutes sur la chaîne de Werner. Ensuite, j'ai vu passer un article du Guardian sur une artiste japonaise qui est devenue une star de la pop alors qu'on connaît toujours pas son identité. Elle s'appelle Ado, et bien qu'elle a environ 6 millions d'écoutes mensuelles et 10 singles de platine, elle a maintenu son anonymat. Pas de photos, pas de vidéos, et même en concert, on ne voit que sa silhouette. C'est à la fois une manière de se protéger et de rebondir sur l'ambiguïté de sa musique, où le chant est très inspiré de voix synthétiques, et où l'esthétique pop se mélange avec une attitude punk. Et enfin, celle-là, elle est un peu de niche, mais la question est large. Qu'est-ce qui définit la jungle? Alors j'imagine déjà Léo lever la main pour tenter de répondre, mais dans une culture anglaise qui mélange tellement de choses, entre rave party, sound system, reggae, drum and bass, bah pas facile de défricher. Mais cette vidéo de Resident Advisor est très pratique pour avoir quelques explications et surtout pas mal d'exemples. Voilà, merci d'avoir écouté cette 11e boisson chaude, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux, à partager l'épisode et à nous rejoindre sur Patreon. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et on se retrouve la semaine prochaine. Salut !